Emmanuel Marilus, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien de mieux en mieux, on va dire.
Très bien. Alors, je vous demande ça parce que, vous savez, Emmanuel Marilus, j'ai été très alerté par l'ensemble des messages que vous faites passer. Je dirais même que vous faites passer des milliers de messages sur Facebook, sur différents supports, sur Twitter, sur tout l'ensemble des réseaux sociaux. Et nous avons déjà consacré à ici Martinique une première fois un éditorial vous concernant, juste après ce qui s'est passé dans les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, après le cyclone Irma. Mais il me paraissait important de vous rencontrer parce que je voulais savoir, Emmanuel Marilus, qu'est-ce qui fait que votre projet, dont tout le monde a l'air d'avoir compris l'intérêt, n'est pas aujourd'hui un projet qui existe et qui vous permet peut-être, pourquoi pas, j'imagine, de vivre autour de cette opération. Alors merci de nous recevoir. Nous sommes, je le répète aujourd'hui, dans vos bureaux. Merci de nous recevoir. Et surtout, Emmanuel Marilus, je vous tends ce micro pour qu'on puisse savoir exactement quel cri vous poussez et pourquoi ce cri n'est pas entendu.
Alors, je vais commencer par dire que pendant longtemps, je me suis cherché avec une idée pareille. Quand on trouve une idée qui dit « je veux occuper le vide qui facilite l'impact », je ne veux plus qu'il y ait ce vide-là et qu'on soit à attendre que les choses tombent. Je crois qu'à travers ma thèse, beaucoup de gens comprendront que je suis dans une démarche nouvelle, dans une démarche totalement nouvelle qui veut que face aux Japonais, à tout autre pays, des gens qui ont cherché des solutions, eh bien, je suis en train de développer ce qu'on pourrait appeler un troisième type. Ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de pouvoir en faire un modèle qui va être le produit phare, donc le lit. Tout le monde a cru que Sécuritli c'était le lit. Non, c'est Sécuritli, c'est le nom créole qui est déposé comme Lacoste en tant que marque. Sécuritli, le lit s'écrit avec un I, L-I, c'est pas L-I-T, c'est li, les nous a dit li en créole, nous a désigné un bagaille. Ça veut dire que je peux sécuriser tout, à tous les niveaux. Simplement, pour répondre toujours, il faut comprendre que un projet comme celui-là, c'était un vrai casse-tête. Ça n'a pas été simple. Il a fallu trouver des partenaires, des gens comme toi, qui m'interrogent, qui se disent « mais tiens, il y a quelque chose quand même de vrai dans ce qu'il dit. Essayons de lui poser des questions pour voir si on peut l'aider. » Alors, chemin faisant, j'ai rencontré quand même un certain nombre de journalistes, on va dire, surtout des personnes au niveau des radios, des animateurs radio, tout bêtement, qui ont épousé la cause, tant sur nos amis RCI que Martinique Première et d'autres radios comme APAL, et qui m'ont donné la parole souvent où j'ai expliqué les choses. C'est vrai qu'on m'a entendu beaucoup, mais il faut faire attention à une chose. Lorsque la France parle au français, on a l'impression que le monde entier écoute. C'est pas vrai. Chaque jour qui passe, où tu fais une intervention quelque part, tu penses avoir parlé pour les gens, tu as une ou deux personnes qui t'ont entendu. Alors, c'est vrai que c'était un peu lassant pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre et qui savent de quoi il s'agit. Mais un projet comme celui-là, c'est un énorme projet.
D'accord, très bien. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Je vous propose, avant qu'on continue de développer, Emmanuel Marilus, puisque nous avons prévu de prendre le temps de vous écouter. Je vous propose qu'on revienne sur le concept. D'accord, tout d'abord, ce que vous appelez, vous, l'idée. Vous nous dites, attention, le lit, le fameux lit à baldaquin qui protège et qui empêche l'écrasement, c'est pas ça mon projet. Mon projet, c'est de considérer des espaces confinés, d'accord? Et dans ces espaces confinés, exemple produit dérivé, le lit, on applique un même principe qui est celui d'empêcher l'écrasement. Est-ce bien ce dont vous parlez?
C'est exactement ça. C'est exactement ça et je suis assez content de répondre à ta question en ce sens, parce que parfois il faut trop de tournure pour pouvoir expliquer les choses. Je suis en train de dire que nous avons en quelque part inventé l'anti-écrasement. Il n'y a pas de distance entre le plafond et le meuble. Il n'y a pas de distance entre le plafond et le meuble. Ce qui veut dire que on a éliminé ce qui pourrait s'appeler l'impact. Alors, quand on va chercher au fond des mots, on comprend bien que ce langage-là, on ne l'a pas entendu avant. On ne l'a pas entendu ni par les professionnels qui ont cherché des solutions, ni par M. Doug Kopp, qui est un chercheur aux États-Unis et qui nous parle de son fameux « triangle of life », triangle de vie, se mettre près d'un meuble, et puis on a la chance...
Dans un angle donné, quoi.
Dans un angle donné près du meuble, un angle virtuel, on sera sauvé. Mais il faut savoir, ce monsieur, que les États-Unis l'envoient sur le terrain après les tremblements de terre pour essayer de constater les survivants, ils étaient où. Évidemment, ça se comprend, ça se comprend facilement. Vous avez un meuble qui est écrasé par une dalle, mais l'épaisseur du meuble écrasé va vous laisser un vide. Si vous avez la chance, une chance sur mille, d'être dans cette petite poche de survie, effectivement, vous êtes sauvé par ce qu'il appelle le triangle of life. Mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout bêtement, pourquoi, quand on regarde une maison en construction, une maison coffrée, puisque c'est cette aventure-là qui m'est arrivée à Saint-Pierre, c'est moi qui ai construit les trois immeubles qui sont en plein bout de Saint-Pierre. Ce matin-là, la terre a tremblé et mes gars avaient travaillé très tôt. Ils avaient quasiment décoffré tout le bâtiment, trois étages. Il y avait une partie qui n'était pas décoffrée. Et comme la terre venait de trembler, tout le monde était un petit peu de la rue, ça faisait 5,2, un truc comme ça. Je leur balance. Si la terre tremble à nouveau, la partie coffrée ne tombera pas. Au moins cette partie-là ne va pas tomber. Et ça m'est resté dans la tête. Sans savoir, hein, parce qu'on enregistre des choses, parfois on ne sait pas. Eh bien, quand j'ai analysé tout cela le jour du tremblement de terre en 2009, c'est 2007 ou 2009 ?
J'ai pas la date.
Eh bien, je me suis dit, mais non, il faut faire quelque chose. Et je suis revenu sur cette vision que j'avais devant l'immeuble coffré. Alors, on va demander aux gens qui nous écoutent de regarder un bâtiment coffré. De regarder les étais, les épontilles, le coffrage qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment en construction. Et de se dire que, est-ce qu'à la place de tout ça, ce coffrage-là, les poteaux qui sont debout, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une forme de meuble qui pourrait jouer le même rôle? C'est exactement ça mon projet. Donc, il est évident que dans un projet comme celui-là, j'ai voulu penser à la personne dépendante. Parce que de tout temps, je me dis, mais qu'est-ce que nous allons faire avec les personnes en situation de handicap, les personnes alitées, les personnes âgées qui ne se lèvent pas facilement, le jeune qui vient d'être opéré mais qui ne bouge pas sur le lit pendant qu'il est en convalescence. Donc, évidemment, j'ai pensé au lit. Parce que quelle est la masse corporelle la plus plausible de mettre à l'intérieur d'une maison? C'est le lit. Le lit, encore pour une autre chose, c'est que ça arrive souvent le soir. Pendant notre sommeil, le temps de réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? La maison craque déjà. Quand on va pour ouvrir la baie vitrée, ben, la baie vitrée ne s'ouvre pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se mettre simplement près d'un mur en oubliant que dans les consignes, il n'y a que des verbes pronominaux, des verbes qui nous invitent à faire, à aller, à se déplacer et tout cela? Alors, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ne se déplace pas?
Oui. Alors, Emmanuel Marilus, un autre élément, parce que je m'en arrête toujours au concept. Un deuxième élément qui est intéressant dans votre solution anti-écrasement, c'est que vous avez pris en compte, je dirais, la partie dalle, c'est-à-dire la partie basse, notamment en particulier dans le cas des immeubles, puisque même quand vous avez un écrasement qui se fait par le haut avec un aplatissement du toit qui descend vers le bas, mais vous avez aussi une accumulation des dalles qui font que à un moment donné, l'ensemble descend. Et vous dites, dans le système de protection qu'il faut qu'on fasse, notamment par rapport à cette espèce de cage dans laquelle on va se protéger, il faut qu'il y ait un système de descente de charge qui puisse permettre à toute la partie protégée, en particulier dans les immeubles, qui sont des systèmes que l'on construit à travers des dalles précontraintes et compagnie, c'est-à-dire tout un système qui fait que les dalles ne sont pas liées véritablement au béton, sauf par la couverture du béton qui est posé sur cette dalle, eh bien, vous dites, il faut qu'il y ait donc un système qui permette dès le bas de protéger le premier appartement du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième. Est-ce bien cela?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que si dans chaque étage, au même endroit, on aura au-dessus du même endroit le même principe de protection, eh bien, nous avons une succession de blocages. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout l'immeuble va s'effondrer, sauf cette partie qui va rester comme un cocon rigide.
D'accord. Alors, par exemple, on peut imaginer, je parlais avec vous dans le cadre de la préparation de cette émission, on peut imaginer que, par exemple, l'ensemble des salons d'un immeuble soient les lieux de protection, ce qui permettrait, par exemple, à ceux qui sont dans les chambres de savoir que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller se protéger et qui ferait qu'on n'aurait pas à chercher une porte qui soi-disant tiendrait, mais qu'on saurait que, par exemple, du côté de la télé ou du côté d'un endroit très précis de la maison, ce serait l'endroit où il faut se protéger. Et en plus, vous dites, on pourrait aménager ces endroits avec des poches de survie qui seraient de l'eau, qui seraient des aliments, des produits secs de ce type. Est-ce bien cela?
C'est exactement cela. Alors, il faut savoir que nous avons beaucoup travaillé avec les gens qui vendent des kits de survie. Nous sommes allés sur le terrain avec eux pour essayer d'expliquer l'importance du kit de survie. Mais en fait, les gens vous disent souvent, oui, mais on va mettre ça où? Est-ce qu'on va pouvoir le prendre au moment où? Donc, l'idéal serait, comme vous dites, le salon dans un immeuble. Hein, à chaque étage, c'est toujours le même endroit où se trouve le salon. Donc, ce serait le salon qui serait en fait une salle de ralliement. Les gens sauraient que c'est là qu'il faut aller, ne pas courir dans tous les sens, ne pas prendre l'escalier, ne pas avoir envie de sauter par la fenêtre, parce qu'on aura expliqué aux gens que techniquement, en dessous, là, en dessous, et en dessous, 3-4 étages en dessous, eh bien c'est protégé. Bon. C'est le même principe.
Alors, Emmanuel Marilus, je crois que les uns et les autres ont compris ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, vous dites, on fait un système de descente de charge qui va faire que dans l'immeuble, dans la maison, il y aura des endroits protégés. OK. Bon. La construction telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est construite de manière un peu différente, puisque vous avez simplement, par contre, des calculs de charge et des calculs qui font qu'aujourd'hui, les bureaux d'études disent cet immeuble-là, lorsqu'il va s'écraser, il ne va pas tomber dalle sur dalle, mais il va s'effondrer et laisser les fameuses poches de sécurité dont vous parlez. Donc, aujourd'hui, c'est presque deux théories qui s'affrontent. C'est une qui dit, dans un pays parasismique, il vaut mieux avoir une descente de charge protégée, et d'autres qui disent, bon, on fait des calculs aléatoires, et en fonction de la réalisation, si l'artisan est très bon, s'il a respecté le ferraillage, si entre-temps il n'a pas pris l'argent du ferraillage pour payer des dettes sociales et compagnie, eh bien, à ce moment-là, les uns et les autres auront une solution intéressante. Alors, en fait, si vous voulez, vous qui êtes constructeur aujourd'hui, vous avez, en tant que constructeur, sorti des conclusions de votre expérience de constructeur aussi.
Il y a ça. Il y a cela, mais il faut aussi que je dise que je respecte le travail qui est fait en profondeur maintenant. On va dire maintenant. Et qu'on me pardonne le maintenant.
Oui, quand vous dites maintenant, ça a du sens. Parce que dans la mesure où, quand vous avez lancé cette affaire-là, nous n'en étions pas à l'évolution aujourd'hui qu'il y a sur le parasismique. Hein.
C'est exactement cela. Donc, on a constaté qu'on a fait du copier-coller quasiment ici, et que si on prend en compte les paramètres, eh bien nous avons déjà des architectes, je les ai entendus, qui sont en train d'aller au fond des choses. J'ai d'ailleurs rencontré un certain nombre d'architectes lors d'un déjeuner débat organisé par Contact Entreprise, où j'animais cette conférence débat devant une entreprise qui s'appelle Cobati et puis tout plein d'architectes qui étaient là ce jour-là.
Qui est là, une espèce d'association du monde du BTP. On retrouve les professionnels du BTP qui se réunissent pour pouvoir discuter des marchés, qui s'entretiennent avec des intervenants, avec des personnes, des élus, pour leur dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le secteur du BTP.
C'est exactement cela. Alors ce jour-là, l'idée c'était de me faire rencontrer en tant que membre de Contact Entreprise, de me faire rencontrer Cobati et un certain nombre d'architectes. Il fallait qu'on C'était une vraie, on va dire presque une confrontation, pas très amicale par moment, mais enfin, je défends ma vision des choses qui s'arrête sur la construction déjà en place. Comment se protéger dans ce type de bâtiment-là, ce qui leur laisse, à mon sens, ce qui se fait maintenant, l'idée de réfléchir sur comment, dans un bâtiment ordinaire parasismique, ajouter à l'intérieur de ce bâtiment, je ne sais pas, une salle renforcée, je
oui,
veux dire.
Oui, notre fameux sas.
Mais oui, mais ils sont en train de se dire qu'il faut aller plus loin. Je les ai entendus. C'est une très bonne chose. Je crois que dans la confrontation des idées, il ne faut pas minimiser quoi que ce soit. Moi, je crois que il y a quelque chose à faire sur tout le bâti, le déjà bâti. J'ai reçu un témoignage poignant à 3h du matin une fois de monsieur qui s'appelle Patrice Drain. C'est un architecte du patrimoine de France. Ce monsieur m'appelle en me disant « Monsieur, je vous ai lu depuis un moment sur les réseaux sociaux. Vous dites des choses extrêmement intéressantes. Mais je n'avais pas imaginé au départ, donc je vous parle aujourd'hui, mais au départ, je n'avais jamais imaginé que vous auriez pu faire ça. Parce que moi, j'avais une idée comme ça. Et je vous appelle pour vous dire que tout bêtement, vous avez déjà développé mon idée. Mais il me dit, monsieur, est-ce que vous savez, est-ce que votre territoire, parce que vous parlez beaucoup de votre territoire, vous mettez en avant la Martinique dans tout, mais vous avez une petite île, est-ce que vous avez les gens capables de vous entendre et de vous accompagner ? Je dis, ben ça se fera peut-être un jour, on verra bien. Et il me dit, vous savez que vous avez un marché qui est un marché phénoménal avec un projet comme celui-là. C'est celui des bâtiments vieillissants. C'est celui des bâtiments classés historiques, qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas casser un mur dans un bâtiment classé, même aux alentours. Il y a des règles, il y a des textes. Et puis c'est technique, on va dire. On touche un bâtiment qui est classé, comme le musée de Messézère, on peut voir tout s'effondrer. Et il explique que vous avez un marché. Je dis oui, mais je connais le marché qui existe. Parce que j'ai un peu réfléchi dessus. Mais je suis content, si vous voulez, d'avoir un grand témoin qui est vous. Et il me dit, bon, comment vous voyez une forme de collaboration? Je dis, mais vous patientez un peu et nous allons ouvrir cette collaboration au moment voulu. Tout ça pour dire qu'un projet comme celui-là, c'est énormément de choses et d'ingénierie qu'il doit avoir autour. Et c'est pourquoi je répète à plusieurs reprises qu'il y a une forme de partenariat et de collaboration à avoir,
à trouver.
J'appelle les architectes à comprendre qu'il y a deux choses à faire. C'est penser au bâti, aux logements sociaux, comme à l'époque j'en faisais beaucoup, qui n'ont pas de normes de protection assez sérieuses, et qu'il y a même des élus chez nous qui sont allés jusqu'à parler d'une loi de l'habitat insalubre. C'est toutes ces bonnes choses-là, il faut les additionner, de façon à ce que l'ingénierie reste ici. Ça veut dire que c'est nous qui allons dire à l'usine qui sera à Perpète, à Bordeaux, à New York ou n'importe où, voilà les éléments qu'on vous donne pour produire, les éléments que nous attendons pour distribuer dans tous les pays du monde où la terre tremble.
D'accord. Alors, Emmanuel Marilus, je crois que par rapport à ce concept et par rapport à l'évolution dont vous parlez, je peux tout à fait comprendre votre réflexion, parce que c'est vrai que lorsqu'on construit comme on construit à la Martinique depuis la défiscalisation, je précise bien depuis la défiscalisation, on est obligé de s'interroger tel que vous vous êtes interrogé. Exactement. Pour au moins deux points. La première chose, c'est que les immeubles qui se faisaient comme à l'époque de Dillon et qui sont aujourd'hui quand même en train d'être renforcés malgré tout, étaient des immeubles qui étaient faits sous le modèle de ce qu'on appelle les tunnels. C'est-à-dire qu'à l'époque, les murs porteurs étaient coulés en même temps que la dalle pratiquement. D'accord ? Bon, vous vous souvenez de cette méthode-là. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'appelle le système des prédalles, c'est-à-dire des dalles que l'on pose sur un échafaudage et qui sont reliés au système de poutre par ce qu'on appelle un système de treillis, disons, un système de chapeau, hein, qui permettent de faire la liaison entre les différentes dalles, on peut à un moment donné, à tout instant, ne jamais oublier le fait que la dalle ne repose pas plus sur 5 ou 6 cm par rapport au reste du mur. D'accord? Et quand vous connaissez l'épaisseur du mur, vous voyez que cet appui est tout à fait relatif, même si dessus il y a une dalle de compression, mais personne n'a jamais expérimenté depuis le début de la défiscalisation, et ça fait des quantités de maisons qui sont construites comme ça, personne n'a jamais effectivement analyser ce que ce type de construction ferait dans le cadre d'un véritable tremblement de terre. Donc, si je vous donne la parole, c'est parce que moi-même, je me suis déjà posé les questions sur ça par rapport au mode constructif que nous avons aujourd'hui à la Martinique, et il n'est pas inintéressant qu'il y ait des gens comme vous, y compris des gens comme Franck Hubert, qui sont architectes, et y compris des gens comme M. Deris, qui ont réfléchi sur toute cette question, qui ont été les premiers à reposer les vrais problèmes de la construction, alors qu'à l'époque, bon, on avait ce qu'on appelle les PS92. Et lorsqu'on est passé aux Eurocodes, c'est-à-dire des systèmes qui sont des systèmes internationaux de normalisation, on s'est vraiment posé un ensemble de questions qu'on ne se posait pas sur la Martinique, en particulier sur toute la période de défiscalisation. Alors donc, si je vous dis ça, c'est que je ne suis pas le seul à savoir ça. Et ce que j'aimerais comprendre, parce que c'est aussi pour ça que je vous interroge, c'est comment il se fait qu'avec toutes les informations que vous donnez, on a l'impression, lorsqu'on vous écoute sur les réseaux sociaux, que vous n'êtes pas entendu et que vous n'êtes pas accompagné, disons, comme il faudrait. Alors, est-ce qu'il y a une méfiance par rapport à votre projet ? Ou est-ce qu'il y a un système qui fait qu'aujourd'hui, l'innovation n'a pas sa place en Martinique? Comment vous expliquez tout cela aujourd'hui?
Alors, je commencerai par dire qu'il y a une méconnaissance. C'est-à-dire que le temps, les gens n'ont pas le temps d'écouter, les gens n'ont pas le temps d'entendre, et chacun va chercher à vaquer à ses occupations, à ses empressements, à ses obligations, et on n'a pas le temps de se parler. Et c'est pourquoi je remercie Emmanuel de Rénal de m'avoir permis ce jour-là devant M. Deris, justement, et tout plein d'autres gens, d'autres architectes, d'expliquer ma vision des choses, qui n'osent pas parler du travail qu'ils font en ce moment. Je ne me permettrai pas, ils ont leurs compétences, leurs connaissances. Moi, je dis simplement que je m'inquiète.
Oui, mais je vous répète, Emmanuel Marie Lucin, que depuis la défiscalisation, personne n'a expérimenter avec un bon tremblement de terre toutes les théories qui sont appliquées aujourd'hui. Hein.
Mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la discussion aujourd'hui, votre témoignage à vous dans la discussion que nous avons, va faire bouger les lignes. Les lignes bougent déjà, mais ça va se faire. Donc moi, j'ai bien expliqué ce jour-là lors de cette conférence débat, où j'ai eu à montrer un diaporama et tout ce que je suis en train de faire, j'ai eu à dire que je ne veux pas arriver à dire un mot qui pourrait empiéter sur le travail que vous faites, les compétences que vous avez. Par contre, vous ne savez pas ce que c'est vraiment qu'une maison autoconstruite. Vous ne savez pas pourquoi on a eu une maison autoconstruite. Vous ne savez pas pourquoi nos parents se sont donné des coups de main à faire leur maison et à faire leur petite maisonnette, souvent en bois, avec cette particularité de salle de repli, de salle de confinement en béton. C'est juste la salle d'eau. Vous ne savez pas ces histoires-là. Donc c'est ça que je veux mettre en lumière et démontrer qu'aujourd'hui, dans les constructions qui ne sont pas parasismiques, il y a un problème. Et quand bien même les maisons sont parasismiques, paracyclonique. Ce qui s'est passé là-bas nous montre qu'il est obligatoire aujourd'hui d'avoir une salle qui répondrait autrement à l'ensemble de la protection face au cyclone, face au tremblement de terre. Et comme je dis dans mon petit mot que j'ai envoyé aujourd'hui à l'innovation là-bas, face aussi aux effondrements sous le poids de la neige. C'est pas seulement chez nous qu'on a ces problèmes d'écrasement Il y a des maisons qui s'effondrent sous le poids de la neige et il y a des gens qui meurent dans ces maisons-là. Donc maintenant, l'idée est de dire, est-ce que nous sommes conscients qu'il y a quelque chose à faire? Une étude approfondie, une analyse approfondie, qu'est-ce qu'on répare, qu'est-ce qu'on élimine et comment on reconstruit? C'est exactement à ce stade-là que nous sommes. Mais il faut prendre en compte tous les paramètres. Moi, je parle des maisons déjà, des bâtiments déjà construits et de la protection dans ces bâtiments-là. Donc, je suis un complément du travail que les architectes font pour consolider les murs.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez, à ce jour, fait valider l'ensemble de votre vision par à la fois, disons, des plans, des concepts et surtout des matériaux qui pourraient répondre à cet objectif que vous avez de salle de confinement?
Oui, alors il y a déjà une partie de l'étude qui est faite, en tout cas les plans sont faits. Ce n'est pas très compliqué, on va dire. C'est surtout sur la partie études de charge et...
Des centres de charge, quoi.
Des centres de charge, études de charge. Hein. C'est-à-dire que on va nous dire, c'est telle épaisseur de panneau, c'est dans ce détail-là hein, qu'ils sont entrés avec moi au FCBA. Donc, ils ont parlé plus d'études de charge. Études de charge superpositionnées, ainsi de suite. Bon, ça a peut-être d'autres
jusqu'à,
noms.
Jusqu'à l'écrasement du système le plus bas, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a cette partie étude qui est faite, qui est, bon, il n'y a aucun problème là-dessus, mais l'ingéniosité du projet, c'est le fait d'être haut.
D'être
haut?
C'est-à-dire, haut, c'est-à-dire?
Ben, c'est proche de la charge, oui. C'est proche de la dalle. Mmh. C'est la dalle qui nous pose problème. Mmh. Et dans un effondrement normal d'une maison, la dalle fendille au milieu et aspire les murs extérieurs. Mmh. À partir du moment où on bloque la dalle, on a une poche de survie naturelle.
Oui, absolument.
Donc voilà, nous sommes dans cette phase de... maintenant, nous sommes dans la phase, parce qu'il a fallu que j'interpelle un peu tout le monde, publiquement parfois, pour arriver à avoir un entretien sérieux. J'ai eu ce premier entretien sérieux à l'époque avec Claude Lise, qui m'avait donné la possibilité de faire des recherches. Après, arrive le chimie.
Juste une question. Vous avez pu aller au bout du financement que Claude Lise vous avait donné ou pas?
Ben de loin. Mon Dieu, de loin. Il m'avait donné une subvention de 15 000 euros. J'ai eu le temps d'avoir la moitié. Et je suis allé... J'ai continué à faire mes recherches avec énormément d'argent dépensé. Mais je n'ai pas obtenu le solde de la moitié, quoi. 7 500 euros. Et il a fallu pendant 4 ans, que j'interpelle à nouveau la région pour arriver un jour à rencontrer Serge Letchimy, à qui j'ai expliqué le projet. J'ai dit non, mais écoute-moi.
Mais avant Serge Letchimy, il y a eu Alfred Marie-Jeanne, vous l'avez rencontré ou pas?
Non. Non.
Pourquoi?
Eh bien, c'est ça le problème de la Martinique. À l'époque, Claude Lise n'était pas en état de sainteté avec Marie-Jeanne.
D'accord. Donc, comme vous étiez soutenu par l'un...
Comme j'étais soutenu par l'un, je n'étais pas soutenu par l'autre. D'accord. Ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est une réalité.
Oui, c'est absolument.
Et après, comme j'étais soutenu un peu par Claude Lise, qui avait un peu compris de quoi il s'agissait, ce n'était pas très emballé par notre ami Serge.
D'accord.
Après. Tu vois le truc. D'accord. Donc, après, il a fallu quand même que j'arrive à parler à Serge Letchimy. Je lui ai expliqué le projet que je porte. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, mais non, mais viens, je n'ai pas compris. Il a appelé son staff, tous les, comment dirais-je, les administratifs qui sont à la région. Et on a eu une grande réunion dans son bureau et j'ai expliqué mon projet. Ce jour-là, j'ai montré que je n'étais pas dans une création d'activité, mais... J'étais encore en recherche-développement sur un projet absolument. Énorme. Donc, il a compris et il a essayé de relancer un peu. Et heureusement, parce que j'étais
à bout.
Mais vraiment, vous savez, quand quelqu'un est à bout, c'est quand vous sortez en mitan en mai, puis vous vêtez, puis vous passez...
Oui, pas tout simplement local en réunion, mais celui-là a crevé en dépio. Quoi.
C'est plus que ça. Alors, finalement, il a pu me permettre d'avoir un second souffle. Pas beaucoup, pas grand-chose, mais...
Vous avez eu combien d'aides de Serge Letchimy, à peu près?
cette aide-là, payée au FEDER au dernier moment.
Combien à peu près?
Ben, aux alentours de 60 000. Soit.
Vous avez pu aller jusqu'au bout de cette recherche ou
ah
pas?
Non.
Là aussi, vous n'avez pas pu arriver
non.
au bout?
Ah non, je ne suis pas arrivé au bout parce que je parlais que du lit.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, en réalité, vous aviez... C'était sur des fonds européens que vous émargiez ou pas?
C'était des fonds européens. C'est
donc ça veut dire qu'il fallait préfinancer?
Oui,
tout à fait. Vous n'aviez pas le préfinancement, je suppose?
Non, je n'avais pas le préfinancement, mais j'ai dû faire comme un kamikaze. J'ai vendu un bien. J'ai vendu le bien qui me permettait de vivre. Tout le monde le sait, Aubert. J'ai vendu le moulin à Vaux-Village et j'ai injecté l'argent à l'intérieur de mes besoins pour faire avancer le projet. Et comme j'expliquais qu'il ne s'agissait pas que d'un lit, mais que d'une gamme de produits, j'ai dû faire un modèle de berceau abri. C'est un berceau très haut, de la même manière, avec, le, on va dire, l'armoire, en même temps, hauteur du berceau. Bref, de façon à ce que l'enfant soit protégé en cas de... Je suis allé sur le terrain de la loi sur la préservation, la prise en charge, la prise en compte de la vie en milieu de travail. Personne ne se soucie de ce texte de loi. Quand vous êtes en milieu de travail, vous devez pouvoir vous protéger
aussi,
d'une manière quelconque. Alors, j'ai, à ce moment-là, dessiné ce qui s'appelle une penderie d'angle. C'est du rangement, mais à l'endroit, à l'angle où on pourrait mettre les manteaux, les trucs comme ça suspendus, ça prend 6 personnes debout. Mais vous êtes debout dans, au milieu d'une armada de poteaux qui représente un peu la valeur des épontilles, les étais qui peuvent supporter le poids de la dalle. Donc à travers ça, il fallait que je lui explique tout ça. Il a relancé les choses. Et aujourd'hui, dès l'arrivée de M. Marie-Jeanne et de Claude Lise, Claude Lise m'a dit, bon écoute Emmanuel, bon, on vient te voir. Alors j'ai dit, on sait qui? Moi, oui, je suis prêt à vous recevoir, à vous montrer mon showroom et puis ce que j'ai déjà fait. Et pour vous dire comment je souhaite imaginer la suite. Et là, il me dit, on vient. Je dis, mais qui vient? Il me dit, la commission risque majeur. Ça veut dire M. Joseph Angélique, ça veut dire Kouraba Anabé, ça veut dire Mme Pamphile, toute la panoplie de gens. Qui sont élus et voire même des administratifs.
Y compris ceux de l'opposition, il faut préciser.
Tout à fait, y compris l'opposition. Et tous ces gens sont venus, on a des photos, on a montré ça sur Internet aussi, sur Facebook, Google, Twitter et compagnie. Et nous avons eu à leur expliquer avec un diaporama les tenants, les aboutissants, les autres trucs que nous pourrions pouvoir demain dessiner, inventer, hein. Par exemple la cabine de protection pour les pompiers qui vont, les secouristes qui vont récupérer les affaires des gens après un tremblement de terre où la maison est pratiquement déglinguée. Bref, vous entrez dans quelque chose qui vous abrite et vous allez chercher le truc et non pas à rentrer à pas de loup et si la maison s'effondre sur vous. Bref, là je regrette un peu que les pompiers de l'urgence de Limoges n'ont pas poursuivi avec moi ce test d'écrasement que nous devions faire. En tout cas, voilà comment les choses se sont passées. Et puis, lorsque M. Marie-Jeanne est arrivé, j'ai rencontré tous les grands ténors. Je leur ai demandé un entretien. M. Yann Morplaisir, pendant presque une heure, je lui ai expliqué la vision que j'ai d'un projet comme celui-là, mais avec la Martinique et pourquoi avec la Martinique. Au niveau de l'ingénierie, au niveau de tout plein de choses qu'on pouvait faire en matière de formation. Et puis j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a dit, écoute Marie-Louise, je sais que ce n'est pas simple pour toi, je peux te donner, je t'ai entendu sur les ondes, je peux te donner un coup de main à te monter le dossier dont tu parles, puisque tu dis que tu veux maintenant faire les tests d'écrasement sur le berceau et la penderie, que tu n'as pas encore fait. J'ai dit, mais bon, oui, ça va coûter un peu d'argent, mais je n'ai pas cet argent-là. Donc je ne peux pas encore aller faire les tests après avoir fait les tests sur le lit. Comme c'est un principe, le principe est acté. On va faire l'étude et tout ce qui s'ensuit dans la production, mais il faut quand même une certification du FCBA. Ça coûte grosso modo 28 000 euros. Il me montre le dossier. Je peux le nommer, c'est M. Hardy.
Il a un prénom Hardy comment?
J'ai oublié son prénom.
Oui, d'accord. Mais il est quoi? Il est ingénieur? Il est quoi?
Non, non, c'est un consultant.
D'accord, un consultant, ok, d'accord.
Okay. Et tout ça. Et c'est le fils du docteur, on dit en tout cas. Alors, il me montre le dossier, il ne m'a pas demandé un centime, il m'a dit, je t'ai entendu, j'ai voulu te donner un coup de main, peut-être que ça va les attendrir un peu, un berceau pour faire des tests d'écrasement, une penderie donc dans un bureau quelque part, ça mérite d'être soutenu tout de même. Alors, il montre le dossier, et on va voir Mme Torpille, et je rencontre Mme Saïd Soutane, qui d'autre, je ne sais plus, mais j'ai rencontré au moins 3 ou 4 personnes
de la majorité actuelle,
pour leur dire, voilà ce que je souhaite faire. Pour l'instant, le grand projet, je ne vous en parle pas parce que c'est un peu plus compliqué. Je vous laisse le temps de comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc voici le projet qui mériterait, à mon sens, un accompagnement pour qu'on puisse faire les tests d'écrasement de ça. Ça coûtait 28 000 et quelques 29 000 euros. J'ai déposé le dossier, je n'ai jamais reçu de réponse. Je n'ai pas reçu une réponse pour me dire non. Je ne dis pas que c'est vexant, je dis que c'est plus que chagrinant. Parce que je suis un acteur de mon territoire, les gens me connaissent dans le domaine de l'arbre à vie, tout ce que je fais, je me bats pour que des gens, des jeunes, votre fils à vous, l'enfant du voisin, puisse demain tout bêtement travailler dans un système qu'on aura créé. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est prêt à vraiment lancer ce projet-là. Je suis en même temps en marche, donc j'ai proposé mon projet à En Marche.
D'accord. Alors, Emmanuel Marie, justement, et là on va rentrer dans une partie un petit peu délicate de cette interview, parce que depuis en tout cas quelque temps, notre chercheur est devenu politique.
On va dire ça.
Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, parce que si c'était déjà compliqué sans étiquette politique de naviguer, je pense que ça le deviendra dans notre contexte local, hein, vous-même vous avez expliqué, ça le deviendra encore davantage quand vous vous rendrez compte que votre apolitisme, disons, aujourd'hui, fait que, bon, vous êtes concurrent, quoi. Je veux dire, En Marche, c'est un groupe politique aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le présenter moi-même, mais votre projet qui jusqu'à maintenant était, disons, apolitique, qui essayait de frapper aux différentes portes, dans une certaine mesure, aujourd'hui, je pense que vous en avez fait presque déjà très probablement référence au président. Bon, alors je ne sais si ça va vous faire une accélération ou quoi dans ce projet, mais je voudrais savoir la limite que vous mettez entre votre engagement de chercheur, d'inventeur, et aujourd'hui votre action politique.
Alors, mon action politique, c'est de dire que je n'ai pas suivi Emmanuel Macron dès les premiers jours pour être, comme on dit, un marcheur des premiers jours, parce qu'il était un homme politique. C'est parce qu'il avait une vision. Et cette vision d'entrepreneur me plaît. Il dit, mettons en avant la France inventive. La France qui a envie de donner du sens à la valeur travail. Moi, ça me plaît. C'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. Aimer son travail. Avoir envie de travailler. Avoir envie de travailler pour gagner sa vie. C'est ça que je leur ai enseigné. Alors lui, lorsqu'il arrive, il commence au balbutiement de son
affaire. Quoi.
De son affaire. Lorsqu'il commence à balancer cela, je dis, mais voilà quelqu'un qui me plaît bien. Voici une vision qui me plaît. Et puis, à l'époque, c'est un peu comme ici. Maintenant, il dit, moi j'ai vu ce que ça donne. Il a eu le temps de naviguer un peu avec François Hollande. Il a vu les coups bas qui se sont organisés. Et il a dit, moi, je veux pas être à droite, je veux pas être à gauche. Je veux partir et demander aux gens qui ont envie de travailler de venir avec moi. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai interpellé très tôt. Il m'a rendu réponse. Il n'était pas encore président. Et il m'a dit, mais vous êtes quelqu'un de la société civile. Et j'aurais besoin de vous. Alors je dis, ben, écoutez, moi je suis avant tout quelqu'un qui cherche à créer des emplois, à imaginer des choses qui pourraient surtout préserver au mieux la vie des gens. Et puis je suis aussi un porteur de projets dans le domaine de l'environnement, j'en ai plusieurs avec l'Arbre à Vie. Alors oui, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Je n'ai pas d'ambition politique. J'ai eu cette proposition d'être candidat aux législatives.
Dernière législative.
Dernière législative.
Sur quel canton?
Sur le canton Nord. Bon.
À Zéro et compagnie.
À Zéro et compagnie. J'ai dit, bon, c'est des gens que je connais. Je connais bien. Je connais pas bien à Zéro, mais je connais bien le maire du Lorrain. Bref. Je connais.
Oui, puis vous êtes du Robert.
D'autres, Chantal Ménian.
Puis vous êtes du Robert. Gens, oui. Puis vous êtes du Robert.
Je suis du Robert, mais je connais des gens qui ont des compétences plus que moi dans ce domaine que ça pourrait intéresser. En tout cas, moi, je soutiendrai la personne qui soutiendra Emmanuel Macron. Ça a été Chantal, ça n'a pas marché comme elle l'entendait. Moi, je pense qu'elle avait fait quand même un bon score. Après, j'ai compris qu'elle avait donné. Consigne aux gens qui avaient voté pour elle pour voter pour Edmond Mariette, que je connais bien, que j'aime bien, hein, que quelqu'un de chez nous. Mais en fait, tout de même, lorsqu'on est en marche, on ne balance pas comme ça tout plein de gens qui vous ont suivi parce que vous étiez en marche pour vous demander à voter pour quelqu'un d'autre. Il fallait qu'elle se taise ce jour-là. En tout cas, c'est mon opinion, qu'elle me pardonne. En tout cas, ceci dit, aujourd'hui, ma position n'est pas une position politique pure et dure. La démarche d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est exactement comme quelqu'un qui va chercher à évangéliser et à nous dire, voilà, les assises, tiens, vous avez des choses à nous dire, vous avez des idées, vous avez des projets que je ne sais pas, que je ne connais pas, que vous connaissez, qui seraient susceptibles d'être mis en place chez vous par rapport à vos spécificités. Eh bien, tiens, dites-moi de quoi il s'agit. Eh bien, voilà, nous sommes dans les assises là aujourd'hui. Il y a des projets que nous avons mis en place où des ministres sont venus voir de quoi il s'agissait. Lorsque, avec l'Arbre à Vie, nous avons créé la pré-enseigne collective, Mme Dominique Voynet est venue sur place comprendre comment nous étions rentrés dans la loi de 79, comment nous avons dit que la loi de 79 ne peut plus s'appliquer parce que c'est le nombre qui nous pose problème. S'il y a une loi pour un commerce, il y a cette même loi de 79 pour 20 commerces aujourd'hui. Ça nous aurait fait une clôture de panneau. Bref, nous avons des projets qui ont été labellisés. On a reçu des trophées, des labels sur des choses mais vraiment sérieuses dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc maintenant, il y a ce projet, ces projets Arbre à Vie que j'essaye de proposer dans le cadre des assises. Mais il y a aussi ce projet que tout le monde connaît.
D'accord. Alors, Emmanuel Marilus, on a bien noté, hein, je vous ai dit, le fait qu'aujourd'hui, vous soyez rentré en politique. Autant je considère que c'est votre droit aussi de faire de la politique, autant je considère que c'est le droit des autres aussi de se poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce que tout ça n'était pas un amalgame politique pour arriver à la politique, ou bien est-ce que c'est l'expérience qui vous a emmené à la politique, ou bien est-ce que finalement vous allez utiliser la politique pour votre projet. D'accord? Bon, vous allez répondre à cela. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que sur le monde des affaires, même si on sait que la Martinique est un pays à deux vitesses, avec 52 gros groupes ou 54 ou 55 gros groupes qui font fonctionner le pays, et puis 52 000 autres coquilles vides ou entreprises de toutes sortes, qui sont pas capables de payer leur patron. D'accord? Bon. Alors, je voudrais savoir, est-ce que, au niveau des groupes dominants aujourd'hui, des 55 groupes, il n'y a pas que des groupes béquets, hein, dedans, hein, au niveau de ces groupes dominants, l'économie martiniquaise, est-ce que vous avez un jour été entendu?
Je dirais non. Simplement parce que, nous avons eu, vraiment à en parler à qui voulait nous entendre. Et Nous avons essayé de parler à qui nous voulait nous entendre sur les ondes.
Oui, vous disiez que vous avez eu donc à parler à ceux qui vous avaient. Oui, mais est-ce que vous avez ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des groupes qui vous ont écouté?
Mais on va dire qu'il y a des groupes quand même. Il y a eu des occasions où j'ai eu à parler devant un certain nombre de personnages, comme ce personnage, M. Bernard Ayotte. Oui. J'aime bien ce qu'il fait par rapport au scolaire. Oui. Je sais qu'il fait beaucoup.
Il vous a entendu, Bernard Ayotte, ou pas?
Non, je n'ai pas eu à lui dire vraiment ce que j'attendrais de lui.
Bien sûr.
Mais enfin, j'ai bien expliqué que aujourd'hui, on pourrait avoir des partenaires financiers ou alors voir même des gens capables de prendre le relais. Alors, quand j'ai dit ça, ça a un peu chagriné beaucoup de gens qui m'ont vu souffrir pour le portage de ce projet. Mais quand je dis qu'il faut prendre le relais, je ne pense pas à moi dans cette affaire-là. Je pense à ce que ce projet pourrait apporter à la Martinique. Moi, je pense que c'est une... On parle de troisième voie, mais c'est un troisième modèle de développement économique que nous avons là. Donc maintenant, je souhaiterais que les grands groupes puissent un peu s'impliquer dans cette affaire-là, puisque je vous l'ai dit, avec le groupe Emmanuel Macron, avec En Marche, nous avons une plateforme qui rassemble tous les grands partenaires,
tous les projets
et les grands partenaires qui veulent faire des choses, des gens qui veulent faire des choses ensemble.
Emmanuel Marius, est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez reçu, parce que là, c'est peut-être pas officiel, les gens ne savent pas, mais je crois avoir appris il y a 2 ou 3 jours que vous aviez reçu un prix d'innovation Outre-mer.
Oui, alors...
Est-ce que c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte, dans cet écosystème que vous êtes récompensé?
Non, en fait, j'ai été contacté il y a environ 2 ans par les gens qui organisent cela. En fait, dans la discussion, ils avaient bien compris que le projet n'était pas mûr. Aujourd'hui, on est prêt. On va recevoir ce prix-là le 14, prix d'innovation. C'est une bonne chose, mais ça n'a rien à voir dans un contexte fermé. C'est surtout parce que je m'explique beaucoup sur les réseaux sociaux. J'explique aux gens ce que je veux, ce que je souhaite avec un projet comme celui-là. Mais je veux vous répondre sur la question politique, pour ne pas oublier. Je ne suis pas un politique. J'ai pendant trop longtemps dit à Emmanuel Macron qui m'interrogeait que je n'étais pas intéressé vraiment par un mandat de député. Simplement que j'espérais que En Marche puisse, avec un gouvernement qui se met en place, prendre ses responsabilités. De quoi je parle quand je dis ça à un président dans un courrier? Sauver la vie des gens, empêcher que les gens meurent, ce n'est pas le rôle d'un individu.
Oui, ça fait partie aussi de votre concept. Hein. Vous dites que dans toutes ces dynamiques nouvelles, dans toutes ces innovations, l'État a un rôle. Vous le disiez aussi à l'époque, quand vous avez plus travaillé sur les opérations de fléchage des magasins, tout ça. Vous disiez que si on veut que ça soit beau, c'est aussi une responsabilité des mairies. Donc en fait, ce que vous recherchez, c'est ce qu'on appelle de l'adossement à des collectivités locales, tout simplement, qui dans le cadre de l'évolution, du développement durable et compagnie, à travers tout ce qui se fait et sur quoi tous les maires signent, qu'elles décident simplement d'appliquer. C'est-à-dire qu'à la rigueur, vous auriez simplement une commune qui dirait, à partir d'aujourd'hui, je veux que tout ce qui est construit chez moi soit fait avec une cage de protection, que ça vous suffirait presque pour pouvoir balancer votre projet, quoi.
Mais pour balancer le projet, il suffirait surtout qu'une commune puisse dire, moi, je veux sécuriser la vie des gens qui sont dans des maisons, dans des bâtiments qui ne sont pas parasismiques. Que je veux sécuriser la vie des gens, des touristes qui viennent chez nous, les scolaires qui viennent visiter le musée des Césaire, par exemple. Il faut que ces endroits-là soient sécurisés en cas de tremblement de terre majeur. Donc, il y a un chantier à ouvrir. Maintenant, si un maire, une collectivité, un territoire, région, je suis allé aussi en Guadeloupe, ou département, veut prendre en compte ce projet-là dans le cadre de ce truc qui s'appelle « droit à l'expérimentation », quand on rentre dans ce texte-là, on comprend bien que personne ne l'a tellement utilisé et qu'à partir du droit à l'expérimentation, on pourrait imaginer les fonds européens, les autres financements qui arrivent, qu'un maire puisse sécuriser sa ville totalement avec le concept que nous proposons et que nous puissions en même temps garder un certain nombre d'emplois ici. Parce que ce que je crains, en l'état actuel des choses, c'est qu'on n'ait plus la maîtrise de quoi que ce soit, sauf mon compte en banque. Alors quand vous me posez la question concernant la politique, non, je ne suis pas venu à la politique pour ça. Je suis venu à la politique pour essayer de porter un certain nombre de projets et puis la vision de cet homme qui correspond à la vision que j'ai depuis longtemps. Inventons, créons, dynamisons, mettons-nous ensemble et puis produisons. Alors, il y aura des gens de gauche, il y aura des gens de droite qui viennent à sa rencontre, là, maintenant, en marche. Eh bien, j'espère qu'il y aura des élus en marche, ici, qui comprendront que nous pouvons avoir une mairie entreprise.
C'est ça. Et puis, je dirais que l'occasion des assises de l'Outre-mer peuvent aussi vous dynamiser votre projet, si, pour peu qu'il soit bien entendu entendu convenablement avec une bonne résonance, quoi. Pas du style est-ce que Marie-Luce c'est un chasseur de subventions finalement, parce que bon, on peut avoir aussi cette impression, quoi, par rapport à tout ça.
Alors, je suis loin d'être un chasseur de subventions, puisque sur les 600 et quelques mille euros que j'ai dépensés, je pense que la part de l'Europe pourrait être énorme, et je n'ai eu que 10% des 600 000 euros. Donc maintenant, c'est pas une question d'argent. Que les gens qui disent ça se taisent. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai travaillé. Je suis pas un flemmard. J'ai travaillé beaucoup. Je veux offrir une partie de ce que je fais à mon île.
Oui, et puis c'est normal. Vous êtes un inventeur. Vous avez le droit d'être un inventeur, de créer un produit et d'imaginer qu'il puisse fonctionner aussi. Il n'y a pas d'explication à donner sur ce que vous faites. Tant pis pour ceux qui passent leur temps peut-être à vous regarder. Mais enfin, vous êtes en train dans une dynamique d'action aussi, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce projet, que je persiste encore à dire que j'appelle les grands groupes à jouer un rôle, à prendre part dans cette affaire-là. À un moment donné, j'ai même dit qu'il pourrait prendre les rênes carrément. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me garantisse que ce projet-là ne soit pas délocalisé. Donc, on aura des choses délocalisées, c'est-à-dire la production.
Oui, et puis, de toute façon, ça peut se reproduire à mille endroits aussi. C'est possible que les cellules puissent se refaire à New York, à Bangkok ou ailleurs, quoi.
Tout à fait. Non, mais les choses vont se mettre en place. Avec la démarche que j'ai, je n'ai pas d'ambition politique, mais ce que j'aimerais, c'est que des jeunes puissent avoir cette vision entrepreneuriale, qu'ils aient envie de se dire que c'est pas sur des subventions qu'on va faire fonctionner une mairie, mais c'est dans l'implication de la mairie, dans une démarche entrepreneuriale.
D'accord.
C'est possible aujourd'hui.
Absolument. Emmanuel Marie-Luce, en tout cas, nous en sommes convaincus, d'accord ? Je vous répète que ça fait la deuxième fois que nous parlons de vous sur notre média. Une première fois par cet éditorial dont je vous avais parlé, vous ne nous aviez rien demandé du tout. Là, cette fois-ci, on s'est rencontrés pour pouvoir vous donner la parole parce que vos interventions répétées font que moi, je me dis, mais c'est pas croyable que cet homme crie en mré comme ça et que personne ne l'entende. Donc moi, je voulais vous entendre. Et comme j'ai moi-même un média, je ramène ce que vous me dites là aujourd'hui dans cette conversation à ce média, à ses lecteurs, à ses auditeurs, à ses supports qui, eux, feront leur jugement. Alors, par contre, ce que je vous ai demandé dans le cadre de la préparation de cette émission, et ce sera pratiquement la fin de cette interview, de quoi avez-vous besoin, d'accord? Et comment des gens qui sont soit monsieur tout le monde, est-ce que vous avez une plateforme de crowdfunding, est-ce que vous avez tous ces éléments-là qui sont mis autour des projets, au-delà, je dirais, des appuis et de l'adossement des collectivités, comment ceux qui vous entendent et qui sont persuadés de ce que vous faites peuvent soit pré-réserver, soit demander des renseignements, enfin comment le grand public, lui, peut aussi vous venir, peut vous étayer, pour reprendre l'expression qu'il faudrait.
Alors, il faut savoir que pour que ce projet-là soit lancé, on a fait une petite étude des besoins. Qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre quoi en place ? Il nous faut mettre en place l'ingénierie. Il nous faut trouver une personne compétente une ou deux personnes compétentes qui m'accompagneraient.
D'accord, mais avec l'argent, on trouve ça. Il vous faut combien d'argent à peu près pour aujourd'hui, pour terminer toute la phase d'étude du projet, complète?
Pour terminer toute la phase d'étude, il faut 1,5
million. D'accord.
Et avec cette somme-là, on va rendre compte. Mais est-ce que nous faisons un appel sur un site de dons? Est-ce que nous attendons que la plateforme d'Emmanuel Macron nous dise comment on peut faire? Est-ce que nous attendons des investisseurs d'ici qui disent que oui, ce projet nous intéresse, nous allons mettre un peu d'argent avec vous de façon à ce que vous puissiez...
D'accord. Alors, donc, la recherche et développement, on va dire 1,5 million. OK? D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez déjà dépensé 500 000. Est-ce que c'est 800 000? Est-ce que c'est 1,5 million plus les 800 000 que vous avez déjà développé? Ou est-ce que c'est 1,5 million au total par rapport à l'ensemble de la partie recherche et développement?
Non, c'est plus ce que j'ai déjà dépensé.
D'accord. Très bien. Deuxième chose, après avoir trouvé cette étude et les différents éléments, il faudra un outil de production pour produire tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cet outil de production existe ou pas pour pouvoir le faire?
Il y a deux choses. On a un catalogue de produits, tout est prêt.
Oui.
Soit on se dit...
Avec les produits dérivés, c'est-à-dire l'armoire murale, le lit, le berceau, tout ça. C'est-à-dire vous avez tous ces produits-là, plus la cage elle-même qu'on peut mettre dans la... La cage est déjà prête aussi?
Non, la cage
d'accord,
n'est pas
elle n'est pas encore prête. D'accord, voilà. OK.
Il y a tout ça, et c'est compris dans la somme.
D'accord.
Mais à partir du moment où on a ça, on se dit, est-ce que nous, on est en capacité de mettre en place une unité de production
d'accord,
ici?
Mais Emmanuel Marilus, aujourd'hui, une unité de production comme celle-là, telle qu'on peut l'imaginer, vous y avez quand même un petit peu pensé, on est sur quel budget, quoi?
On est aux alentours de 80 millions.
80 millions d'euros. Mais c'est quoi? C'est presque un tiers du TCSP, là.
Ben écoute, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, une usine, c'est une usine. On fait venir des spécialistes, on l'installe, on va chercher l'argent de l'Europe, on va chercher l'argent partout.
D'accord, OK. Donc, à 80 millions.
Je ne veux pas me prendre la tête avec ça.
Oui, d'accord. Non, mais enfin, c'est quand même important.
Parce qu'il y a cette possibilité-là.
Oui.
Mais tout le monde sait comment les choses sont impossibles chez nous.
Oui.
Eh bien... Moi, je dis simplement qu'avec un catalogue de produits et tous les éléments dont on aura mis en place, on peut aller simplement vers une usine dans l'Hexagone qui va
d'accord,
produire.
Très bien, qui peut aussi le faire, d'accord. Donc, un outil de production qui peut être aussi déporté, qui peut faire que les pièces peuvent être usinées quelque part et puis montées à la Martinique. D'accord.
Du montage.
D'accord. Ce qui n'est pas plus mal non plus.
Ce qui n'est pas plus mal.
Dans un premier temps, peut-être.
Dans un premier temps, mais si ça démarre comme ça dans un premier temps, ce sera difficile de changer les choses.
Non, mais Emmanuel Marie, je comprends, mais à défaut de grivons, moi je démerde.
Oui, oui, on va se contenter de ça, mais enfin, moi je me dis que nos jeunes là qui partent.
D'accord. Et dans le cadre justement d'une collaboration comme ça avec une usine existante, sur la partie mise en place du réseau et compagnie, il faudrait à peu près combien d'argent de plus que les 1,5 million dont vous avez parlé?
Ça, on n'a pas fait l'étude. Je ne vais pas balancer un truc comme ça. C'est une grosse étude.
Donc, grosso modo, vous dites que sur cette affaire, au gros crayon, c'est 1,5 million, d'accord?
C'est ça, dont les 800 000 que j'ai investis.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous êtes donc à la recherche de ce montant-là pour pouvoir boucler votre projet. C'est bien ça?
Tout à fait. Soit en privé... soit en public-privé.
D'accord. Donc, maintenant, je crois que, parce que ça me paraît, c'est important qu'on donne des chiffres. Aujourd'hui, la Martinique sait combien il vous faut pour ça. Il vous faut 1,5 million pour pouvoir régler ce problème, d'accord? Pour pouvoir régler complètement cette étude, d'avoir tout...
Il ne faut pas oublier de dire, dont les 800 000 que
mais
j'ai apportés.
Mais on est d'accord, les 800 000...
Non, les
800 000... Non, mais au-delà de ça, dont les 800 000 que vous avez déjà sans doute investi, mais enfin, je veux dire, dans ce projet, je pense que les 800 000 seront très probablement votre fameux apport en industrie, hein, très probablement, qui fait que finalement, les 800 000, vous les garderez pour vous. Hein, vous savez bien ça, M. Marilus.
Oui,
ils ne pourront plus être remboursés, puisque même sur des aides publiques et compagnie, elles sont anti aux nouvelles autorisations que vous auriez.
Donc, on
s'arrête pas à ça. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, pour terminer ce projet, la Martinique doit savoir qu'il faut 1,5 million à M. Emmanuel Marilus. Donc la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que oui ou non, en Martinique, on peut trouver 1,5 million pour faire un projet qui peut produire à peu près, en termes de production, quel chiffre d'affaires vous avez imaginé que l'ensemble de ce projet à 1,5 million plus la partie production pourrait faire? Est-ce que vous avez des chiffres?
Non, alors on n'est pas rentré dans les chiffres, je vous donne un exemple. Il suffirait qu'aujourd'hui, en Haïti, puisque je suis allé avec Martinique Première à l'époque, j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des gens, il y a beaucoup de bâtiments fragilisés. Il suffirait qu'on ait à produire des salles de confinement pour Haïti, pour la grande région Caraïbes, pour chez nous, Martinique et en Guadeloupe, on a un marché phénoménal.
C'est un marché sans limite presque.
Ça n'a pas de limite. D'accord. Il faut que les gens soient conscients que Emmanuel Marilus ne cherche pas à faire un petit projet dans son coin.
Non, mais Marilus, même si c'est un projet dans votre coin, vous avez le droit d'avoir un projet dans votre coin.
Je veux dire,
parce qu'il ne faut pas non plus que se culpabiliser d'avoir son projet dans son coin. Chaque Martiniquais a le droit d'avoir un projet dans son coin. La question est de savoir, est-ce que oui ou non, à un moment donné, on arrive à percuter et à faire les autres percuter sur ce projet-là, quoi.
Alors, si les gens ne percutent pas sur un projet comme celui-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que la meilleure solution dans les bâtiments que nous ne pouvons pas casser ou refaire, comme au Gaumont, avec une école fragilisée, avec des fissures et tout, si on veut garantir la vie des gens pour que soit le maire, soit le président de la CTM ou alors le préfet n'aille pas en prison, il faut un minimum de garantie pour les gens. Et c'est ce minimum-là que nous apportons avec Sécurité.
D'accord. Ben, écoutez, Emmanuel Marilus, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi, je crois qu'en tant que média, j'aurais fait mon job, c'est-à-dire celui qui consiste à donner à un Martiniquais la parole, un Martiniquais qui crie en mouille, d'accord, et qui, depuis maintenant, ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette affaire-là aujourd'hui?
Depuis 2009.
Ça fait quoi? Ça fait combien d'années? 2019, ça va presque faire 10 ans. Quoi, c'est
ça va presque faire 10 ans.
D'accord. Ouais. En tout cas, Emmanuel Marilus, j'espère que lorsque nous serons en 2019, parce que nous sommes en 2018...
Mais j'ai démarré avant ça.
Je sais bien. Mais enfin, disons que j'espère qu'en 2019, les premiers éléments sortiront de votre usine. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci de nous avoir reçus à votre bureau et bon courage, M. Marilus.
C'est moi qui vous remercie.